ce jour dédié à l'élévation de l'âme de Yamin Ben David Pinto Zechono Livracha. Donc ce shiur, ce cours est la suite du cours qu'on a fait hier sur le roi David. Le sujet traité était comment réagir lorsqu'une personne nous fait du mal. Et on a raconté hier l'histoire longuement qui a amené à l'événement où le roi David est en train de fuir de son palais parce que son fils Absalom fait un putsch militaire pour le renverser. Il est en train de monter à pied avec sa famille, avec ses serviteurs, ses servantes, ses généraux, vers le haut du mont des Oliviers. Arrivé en haut, vient Shimon ben Gera, qui était le chef du Sanhédrin, qui l'insulte, lui jette des pierres, du sable, la terre. Yoav ben Tsruya, le général de David, sort son épée et dit « Laisse-moi, je vais le tuer comme un chien ». Et le roi David lui dit « Laisse, Hachem amarlo kalel ». Dieu lui a dit d'insulter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui nous arrive dans la vie provient de Dieu. Quelqu'un me fait comme ça, je n'ai pas de compte avec lui. Il est un envoyé de Dieu. Quelque part même, c'est un ange. C'est quoi un ange? Un envoyé de Dieu. T'as un ange qui te fait gagner au loto, et t'as l'ange de la mort. Dieu nous en préserve. Mais ce sont des anges, ce sont des envoyés de Dieu. Là, t'as un ange qui t'a été envoyé pour faire comme ça. Je vais plus loin, je vais choquer un peu. Hitler qui tue 6 millions de juifs, et en torture pas mal en route, et en laisse en état de choc au moins la même quantité, ben c'est un ange. Il est inconcevable, dans le cadre de la Torah, de croire qu'un être humain puisse me faire quelque chose sans que Dieu l'ait décidé.
C'est un libre-arbitre pourtant.
Lentement. Quand on dit « Shema Yisrael, Hashem Elokeinu Hashem Echad »« Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un », c'est quoi un? C'est la maîtrise totale de tout. 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 À Rosh Hashanah, quand on fait la prière de Moussa de Rosh Hashanah, on dit trois brachot au milieu de la Amida de Moussaf. La première, c'est Malchuyot. Malchuyot signifie les royautés. Dans le cas de cette bracha des royautés, on vante la royauté d'Hachem, on cite 10 versets. Et le dernier, c'est le verset le plus expressif dans ce sens. Lequel? Shema Yisrael Hachem, le Kedon Hachem Echad. Roi. C'est quoi? Il est un, il est roi, il est le maître, incontesté de tout. Rien ne peut arriver sur terre, je rectifie. Rien ne peut m'arriver dans le monde, sinon que Dieu a décidé que ça m'arrive.
Vous êtes un ange pour moi, je suis un ange pour vous.
Oui, exactement. Nous sommes tous des anges. Tu as des anges de la mort, des Hitler. Tu as des anges de la vie. Tu as des anges qui sont là pour te corriger, ta femme, ton copain de chambre. Et on peut dire qu'en gros, tous les anges que nous avons qui nous enquiquinent un peu, à part notre femme qui a le même tafkid, aussi le même jour, le même rôle, mais qui n'est pas pour nous enquiquiner, mais les gens qui m'enquiquinent sont là pour que je me corrige. Que je corrige mon orgueil, ma jalousie, ma colère, mon ego, ma paresse. Hachem m'envoie des anges. La question que tu poses tout de suite, libre arbitre. Donc quoi, je comprends pas. Hitler, donc c'est un ange. On arrive là-bas, il a, comme chez les chrétiens, d'accord, une aura au-dessus de la tête. Ouais. Alors, il y a ici une équation qu'il faut comprendre bien comment elle se combine. Hachem veut que le roi David souffre pour réparer le péché qu'il a fait avec Bathsheba. Il faut une des souffrances, une des souffrances préférables pour expier nos péchés. Chaque souffrance expie les péchés. Mais si Hachem nous aime vraiment, nous envoie une souffrance qui n'est pas une vraie souffrance. C'est quoi une souffrance qui n'est pas une vraie souffrance? Si ce n'est pas une vraie souffrance, je ne souffre pas. Non, il faut que je souffre. Alors c'est une vraie souffrance. C'est quoi une souffrance qui n'est pas une vraie souffrance? Il y a trois niveaux. Le pire, c'est souffrance dans le corps, qui t'empêche après de servir Dieu. Tu ne peux pas prier, tu ne peux pas étudier la Torah, tu ne peux rien faire. Tu es malade. Chimiothérapie, Hachem Yishmor. D'accord? On touche le corps. Deuxième niveau, on touche l'argent. Ça, c'est déjà moins grave que le corps. Tu peux faire une maladie grave ou un redressement fiscal? Qu'est-ce que j'en réponde? Redressement fiscal.
C'est plus facile pourtant de voir Hachem dans la maladie que Hachem dans l'argent.
C'est vrai.
La réparation est plus grande donc dans la maladie.
La réparation est fonction de la souffrance. Maintenant, il y a des souffrances qui sont objectives et il y en a qui sont subjectives. Parce que une souffrance qui n'est pas une souffrance, c'est lequel? Le troisième niveau. Quand quelqu'un me fait honte, si possible en public, un gros chouma, d'accord? Tu deviens rouge, vert, jaune. Objectivement, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait guiliguiller à ton orgueil. On l'a un peu aplati. Bah, au Hachem, ton corps est en bonne santé. Et alors, ben, tu deviens rouge, jaune. Enfin, on voit que la circulation sanguine fonctionne comme il faut très bien. Ton argent n'est pas touché, tout va très bien. Tu es touché dans ton ego. Bon, ok, très bien. Bah, l'ego, c'est bien qu'on le ratatine un peu. C'est une bonne souffrance. Il semblerait que Hachem aimait beaucoup le roi David. Donc, il envoie une souffrance qui est dans son ego, en face de ses servantes, en face de ses généraux, en face de ses serviteurs, de ses enfants. On le traite de tous les noms. Noef, tu as fait l'adultère. Moret, t'es révolté, t'es un usurpateur de la royauté, etc., comme je dis hier. La honte, la honte. Je vous ai raconté hier que Eva Abraham, Chesed, correspond à la voie de conduite de Dieu, qui soit le Chesed, la bienveillance. Yitzhak correspond à la Gvura, la vaillance. Yaakov, à la Tif Eret, qui est l'union des deux. Ce sont les roues du chariot céleste. Hachem, quelque part, de façon imagée, pose sa présence sur quatre roues. Ces trois roues, c'est branlant, il faut quatre. Les trois premières sont Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est qui la quatrième? Le roi David. Quand le roi David est-il devenu la quatrième roue de la Merkava, la quatrième roue du chariot céleste, qu'Hachem se pose sur lui, la présence de Dieu stabilisée sur terre sur un être humain, tu comprends ce que ça veut dire? Hachem a besoin quelque part de stabiliser sa présence sur terre. Il faut des hommes de calibre qui puissent être un stabilisateur de Dieu. Qui est cette quatrième roue? Le roi David. Quand est-il devenu ce quatrième roue? Lorsque Shimon ben Guerra le traite de tous les noms, son général Yoav lui dit « Je vais le tuer comme un chien », David dit « Il a une bagarre intérieure ». Il dit « Ce type-là, il est passible de mort. Moi, je suis un roi d'ordre divin. J'ai été sacré par Shmuel le prophète. Je n'ai rien demandé, on m'a sacré. » Quelqu'un qui désobéit à plusieurs raisons, qui fait du tort, il insulte un roi d'ordre divin, est passible de mort tout de suite. Donc, d'après la loi, maintenant, passible de mort. Deuxièmement, me dit Eliran, un roi, c'est marqué, un père peut Et Mochel peut pardonner le manque de kavod qu'on lui fait. Pas bisiono. On n'a pas le droit d'insulter son père. Mais si ton père, par exemple, te dit « pas besoin de te lever quand je rentre », normalement, quand le père rentre dans la chambre, il faut se lever. Il dit « pas besoin, ça va ». Il peut être mochel, il peut excuser l'honneur qu'on lui doit. Il ne peut pas être mochel bisayon. Bisayon signifie que tu le fais honte. Tu le traites de tous les noms. Un roi n'a pas le droit de faire ça. Parce qu'il représente la royauté du pays. Il ne peut pas dire « ok, c'est pas grave ». Quoi, c'est pas grave ? Très grave ! Le roi David, il sait ça. Donc vas-y, général, tu le tues, hein, normal. Le roi David, il est propre. Il est pur. Je vais le tuer maintenant, les Shem Shamaim. Je vais le tuer, les Shem Shamaim. Là, la réaction, c'est une réaction. C'est pas que, parce que Dieu a ordonné que lorsqu'une personne insulte le roi, il faut le tuer, on le tue. C'est pas que je suis en train d'appliquer la loi, je suis en train maintenant de me venger. Je suis en train maintenant d'avoir une réaction. C'est pas une action objective. Et je comprends que j'ai pas à lui en vouloir. Parce que c'est Hachem qui l'a envoyé, j'ai une dette. Il a eu une guerre intérieure, le roi David, terrible. Terrible. Et il a gagné.
Selon la loi, il va le tuer normalement.
Il doit, normalement. Il a gagné que maintenant, je ne réagis pas. Je ne réagis pas. Il ne fait rien. Avant de mourir, il est sur son lit en train d'agoniser le roi David. Il appelle son fils Shlomo et lui dit « Quand j'ai été dans le contexte de renversement de ton frère Absalom, Shimi ben Gera, le chef du Sanhérin, est venu et m'a insulté. Il ne faut pas le laisser mourir normal. Pour deux raisons. Moi, je n'ai pas le droit de l'excuser. Deuxièmement, lui, il faut qu'il fasse son tikkun d'après la loi. Il est passible de mort, sinon il va au lama-ba. C'est bien pire de payer là-bas que payer ici. Donc, tu es un homme intelligent, tu feras en sorte qu'il meure. Qu'a fait Shlomo HaMelech ? Il a dit à Shimon ben Gera, tu n'as pas le droit de quitter Jérusalem. Tu laisses en vie, mais Jérusalem, tu ne quittes pas. Le jour où tu quittes Jérusalem, tu es mort. Il a tenu 2 ans. Au bout de 2 ans, un de ses serviteurs s'est enfui. Il a pris ses hommes, à cheval, il les a poursuivis. Il a poursuivi le serviteur. Et à ce moment-là, il est devenu passible de mort et a été condamné à mort. Ça veut dire quoi, hein ? Le roi David dit, laisse-le, Dieu a dit de m'insulter. Ça veut dire, et comme ça explique Chazal, tout ce qui m'arrive provient de Dieu, Hachem Echad. Donc je n'ai pas à en vouloir à quelqu'un. Impossible ! Impossible ! C'est interdit, la Torah interdit. L'otisna est arrivé à Bivar, tu n'as pas le droit de haïr ton frère dans ton cœur. On peut l'haïr si on a vu faire une avéra grave, nous-mêmes, de nos yeux. Pardon ? On a le droit de haïr quelqu'un qui a fait une avéra, un péché grave, on l'a vu de nos yeux. Quelqu'un, on a vu par exemple, il a fait l'adultère, d'accord ? À l'époque du temple, 2 témoins venaient. Et disait, il a fait avéra, on le prenait et on le jugeait, et il y avait la peine capitale pour le type qui avait fait l'adultère. Mais s'il y avait un seul témoin, il n'y a pas le droit d'aller dire ça au Beddin. Agmar donc Sakhim raconte qu'il y avait, comment il s'appelait, Touvia et Zingoud, je me souviens bien. De Zingoud et Touvia. Lequel des deux est venu? Je crois que c'est Touvia. Touvia, il a vu Zingoud faire l'adultère avec une femme. Il vient voir Rav, c'était le grand rabbin. Il lui dit, voilà, j'ai un témoignage à faire. J'ai vu maintenant Zigoud avec une femme mariée. Rav entend tout cela, il dit, ok, pas de problème. Amenez les préposés à la bastonnade. Bastonnade à Touvia. Touvia se fait bastonner. Il dit, je comprends pas. Zigoud fait la vera et moi je me fais bastonner. Ouais, t'es fait la chanara. La Torah dit que pour témoigner, il faut deux témoins. Un témoin, dans ce cas-là, ne sert à rien. Il y a des cas où ça sert. Là, dans ce cas-là, ça ne sert à rien.
Parce qu'il y en a un autre, il y a un autre témoin qui vient s'additionner.
Ça va, mais il n'y a pas pour le moment. Qui vient des deux. Pour moi, il y a un.
Ouais, ok, un potentiel maintenant. Peut-être dans deux heures, peut-être il y a quelqu'un qui a vu, il va se rappliquer. Donc.
En attendant, ça ne va pas. Et il se peut aussi que le Rav lui a demandé, il y avait un autre avec toi. Non, on était les seuls dans la forêt. Peut-être quelque chose, je ne sais pas, d'accord. Dans ce cas-là, on a l'ordre du ster, mais il a le droit d'haïr.
Pour la vera.
Donc quelqu'un qui fait la vera grave, tu peux le haïr. Marquis, tu n'as pas le droit d'haïr. Mais ce type-là, je ne peux pas supporter. C'est un monstre, Burk.
Il n'y a pas un statut et après, de personne que je peux haïr, et après tu peux l'haïr pour n'importe
quoi. Non, on peut l'haïr pour cette chose-là. Mais normalement, dans les cas de différent avec quelqu'un. Quelqu'un, il s'est à Shiva, il m'a parlé un peu difficilement, il m'a piqué ma ratio, mon schnitzel, je sais pas moi, il ronfle, je lui dis de se taire, et il m'a dit va te faire voir, d'accord, enfin n'importe quoi. Depuis on se fait la tête, c'est interdit. Le guédère, la limite que Razan a donné pour transgresser l'interdit de l'autisme, de pas haïr son frère dans son cœur, c'est 3 jours que tu ne lui parles pas. Dans le couloir, un jour ça passe, 2 jours, 3 jours ça va plus. Impossible. Ces personnes-là qui nous font du mal sont tous des envoyés de Dieu. On n'a pas à les haïr.
Je suis droit de voir 3 fois et de ne pas lui dire bonjour, Claire.
Un moment. Ça c'est l'autre à ta chicha, ton frère, c'est pas ton frère.
Et donc le libre-arbitre dans tout ça ?
Alors, la question qui se pose, c'est la question du libre-arbitre. Dans ce cas-là, Hitler, comme j'ai dit, c'est un ange. Donc après tout, il est déculpabilisé. Il dit, on va le juger là-haut. Il dit, il comprend, regarde Rav Shaya là, le roi David. Moi, je sais que j'étais un envoyé de Dieu. Alors j'ai commencé à expliquer. Hachem voulait que le roi David souffre. Il y avait une case. Il faut quelqu'un maintenant dans cette case qui va insulter le roi David. Je dis que ce sera par une insulte, ce ne sera pas dans son corps, pas dans son argent, mais dans son cavote, dans son ego. Et il me faut maintenant une personne qui va lui faire ça en public. Qui sera l'ordure qui va faire ça ? Je cherche maintenant quelqu'un qui, lui, maintenant, a une épreuve dans ce sens. Une épreuve où il doit juger intelligemment et savoir est-ce que je dois, oui, maintenant, insulter ou pas insulter. Et l'épreuve est de ne pas insulter. Et lui, il s'est planté et il a insulté. Hachem fait en sorte que ce soit Tartampion. Tartampion voit, il voit le rabbi de passer. Ah, j'ai envie de l'insulter celui-là. Non, mais ça va pas, mon vieux, c'est le roi, tout ça, on n'a pas le droit. Bon, je me tais. Il a réussi. Tartampion 2, lui aussi. Ah, David, c'est une ordure ce type-là, qu'est-ce qu'il a fait hein? Non, je me retiens. Il met Shimon ben Guerra. Shimon ben Guerra se met maintenant dans cette épreuve-là. Et Hachem, c'est pour le tikkun. Shimon ben Guerra, son tikkun, une de ses missions sur Terre, c'était arriver maintenant à réussir cette épreuve et ne pas faire cela. Il voit le roi David, il a une pulsion comme ça, mais c'est un adultère, un usurpateur, un assassin. Et moi, je suis Sanhedrin, je ne peux pas laisser ça comme ça. Et il commence. Il est responsable.
Donc il y en a un qui va obligatoirement tomber là.
C'est-à-dire ?
Là il a une épreuve. Il veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui ont une épreuve. Comment David il pourra réparer, il pourra faire son épreuve sans que quelqu'un tombe ?
Alors, Hachem met les personnes dans les cases. S'il s'avère qu'on vient au tartampion numéro 1000 et que chacun a réussi son épreuve et n'insulte pas le roi David, Hachem il a d'autres robinets pour faire souffrir le roi David, il trouvera un autre moyen. D'habitude, Hachem sait ce qu'il fait. Et 1, 2, 3, il y a des statistiques. On se couvre d'un moment, sur 1000, tu auras bien un qui va tomber dans le panneau. Et ce type qui est tombé dans le panneau, il a raté son épreuve. Il est responsable et payera pour ça. Donc Hitler est responsable des 6 millions de juifs. Mais ce n'est pas mon affaire. Rouven qui fait à Shimon comme ça. Shimon doit se dire, Rouven, je n'ai pas à lui en vouloir, c'est un tzadik, c'est un ange. Il est envoyé de Dieu. Absolument. Chas shalom, Dieu ne place de le haïr. Rien. Il est envoyé de Dieu. C'est pas mon... J'ai rien à voir avec lui, j'ai à voir avec Dieu. Lui, c'est rien, c'est un robinet, c'est rien. Un bâton au nom de Dieu.
Il ne va pas le haïr.
Non, un moment. Un moment, un moment, un moment. La personne, elle, par rapport à Dieu, elle est responsable. Elle payera. C'est pas mon affaire.
C'est pas, de la faire payer.
C'est pas, non, c'est pas mon affaire. C'est pas mon affaire. Des fois, on a une mission de la faire payer, comme le roi David. En tant que roi, il doit maintenant ordonner qu'on le tue. Mais ce n'est pas une affaire personnelle. Il attend le dernier jour de sa vie que ça va, il a d'autres chats à fouetter.
Qui t'a volé?
Alors, je ne dis pas maintenant, très bien, le cas du vol. Je ne dis pas maintenant qu'on doit se laisser voler et faire, etc. Même la personne qui m'a fait du mal, qui m'a fait comme ça, je peux, une fois que je suis calmé, quelques jours plus tard, lui dire, écoute, le jour où tu m'as fait comme ça, je ne sais pas si c'est tout à fait approprié, peut-être de s'en agir, d'accord? Mais pas que c'est une vengeance, pas que j'ai maintenant...
Une rancœur.
Ça, c'est interdit. J'ai mis ça à la tochecha, j'ai mis ça maintenant d'aller corriger. Comme je vois un type dans la rue qui fait comme ça à son prochain, je dois aller le voir et lui dire. Ça doit être la même chose. En celui qui m'a fait à moi comme ça, est-ce qu'il a fait à l'autre? C'est la même mitzvah d'aller corriger un bon juif. Quelqu'un qui m'a volé, je dois reprendre mon dû, c'est clair. Mais la rancœur, il n'y a pas de place pour la rancœur. Pourquoi? Parce que ce type-là, le fait qu'on m'ait volé, ça aussi, c'était décidé par Dieu. Maintenant, ok, alors Dieu, il m'a dit, maintenant tu as volé, tu ne réagis pas. Non, il m'a dit, quelqu'un qui t'a volé, tu peux maintenant récupérer, tu as mis ça de récupérer ton argent aussi, c'est clair. Et il faut le faire. Oui.
Il se va de récupérer mon argent.
Oui, absolument. Rachid dit ça quelque part dans Ézéchiel. Oui.
On va plus loin. Donc lui, il est pas rachat. Il a fait une avéra.
Il n'est pas rachat? Il est super rachat. Mais c'est pas mon affaire.
J'ai la mitzvah d'ailleurs un rachat.
De?
D'ailleurs le rachat.
Oui.
Voilà.
En tant que rachat.
En tant que rachat, oui.
Oui, mais pas comme tu vas haïr l'autre rachat que tu as entendu dans la rue qui a volé.
Ah, c'est ça.
Il vaut mieux de juger les Kazakhout.
Pardon?
Ce serait pas mieux de juger les Kazakhout à ce moment-là?
Il y a des cas. Il faut voir qui, quoi, comment. Le Kazakhout, c'est quand on a un doute. Que j'ai vu un acte maintenant et j'ai un doute si la personne maintenant elle est coupable dans cet acte qu'elle a fait ou pas. Je vois un élève arriver maintenant à 8h moins quart à la prière le matin. D'accord? Alors je peux dire ou bien il a fait la grâce matinée, on va à Shabbat, il arrive pour Kriyat HaTorah. D'accord? Je suis à la synagogue, je vais rentrer comme ça. Paresseux. Ou bien je peux dire non, certainement au milieu de la nuit. Sa voisine a eu un malaise, il savait qu'elle à l'hôpital, il a pris en ambulance, il a aidé, et maintenant il est revenu à pied de l'hôpital et il a voulu gagner Kriyat HaTorah. Il y a des cas pareils, il y a des cas pareils. Mon voisin, ah, bien sûr. Mais ça existe, mais ça existe. Mon voisin, il me racontait qu'un jour il est arrivé un peu tard à la synagogue, pas beaucoup, 8h30, un type de à 7h tu arrives maintenant, le type, c'est un type bien, mon voisin. Puis un type presque un voyou, il dit. Ah, c'est maintenant qu'elle va à la synagogue. Le type, sa femme avait accouché. Tout à l'heure, il était avec elle. Elle est revenue en dernière seconde pour encore avoir un minyan bien. D'accord? Ça arrive. Alors, il y a une mitzvah. Lorsque la personne qu'on a en face de nous, une personne qui est cachère, normale, mais pas un grand sadique, si c'est 50-50, j'ai la balance, elle est autant du côté dire qu'il a une bonne raison qu'une mauvaise raison. Donc, le cas que je dis, c'est pas un très bon cas. Celui qui vient à 9h pour Kriyat HaTorah, le Shabbat, d'habitude, c'est un paresseux. Mais disons, c'est là un cas où je peux juger ça favorablement comme négativement, de façon égale. Obligation de la Torah de le juger favorablement.
Il est quand même venu vers Kriyat HaTorah.
Voilà. Donc, j'ai une obligation. Si ça penche plus du côté négatif, j'ai la permission de le juger négativement. Il y a Midat Rassidut, donc une mesure de piété, de le juger favorablement. Si c'est un rachat, si c'est un tzaddik, même si le côté négatif est plus grand, obligation de la Torah de le juger favorablement. Si c'est un rachat, un mécréant, bien que le côté positif est plus grand, mitzvah de le juger négativement. Bon, il y a des lois là-dessus. Mais tout ça, c'est dans le cas de Safek.
Non, si la personne, on ne sait pas c'est qui.
Ah, alors qu'est-ce qu'on fera? Midat Rassidut, on fera.
C'est que c'est quoi?
Voilà. Maintenant, tout ça c'est dans le cas où on a un doute. Maintenant, quand j'ai vu quelqu'un me faire du mal, ou faire une avéra grave, et cette avéra le rend rachat, d'accord? Alors j'ai le droit de le haïr en tant que rachat. Mais quand moi j'ai été touché, je ne dois pas en faire une affaire personnelle. C'est comme j'ai vu faire maintenant une avéra avec quelqu'un d'autre, j'ai le droit de le haïr parce que je sais que c'est un rachat. Si j'ai vu de mes yeux, pas en cas de doute, hein, en cas de doute, j'ai mis ça de juger les caves routes pour le bien. Mais dans le cas maintenant où je l'ai vu de mes yeux, c'est clair, il n'y a pas de doute là-dedans. Ce type-là, il a fait un acte qui le rend mécréant, qui le rend rachat d'après la Torah. J'ai le droit de le haïr, mais pas plus, parce qu'il a fait du mal envers moi qu'envers un autre. Il faut comprendre que dans la vie, tout ce qui nous arrive, ce sont des envoyés de Dieu. Pourquoi Dieu fait ça? Dieu a ses comptes. D'habitude, il veut qu'on fasse un certain travail. Quand j'ai une souffrance qui arrive, ça peut être ou une capara, une expiation de deux péchés, comme le cas du roi David. Ou d'habitude, ce sont que Hachem veut maintenant me montrer, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Sur l'ego, sur la jalousie, sur la colère. C'est pas pour rien que ça m'arrive.
C'est-à-dire que la personne, elle est déplacée malgré elle, quoi?
Qui? La personne qui m'a fait le mal?
Ouais.
Non, j'ai bien expliqué qu'Hachem, il a mis une case.
Ouais.
Et il met dedans quelqu'un qui est libre.
Il met quelqu'un. C'est pas cette personne-là qui va...
Cette personne-là, elle avait dans son job à faire sur Terre une épreuve. Maintenant, tu insultes David ou pas? Hitler, il est antisémite. Hachem veut que 6 millions de juifs disparaissent dans les conditions de la Shoah. Il lui faut quelqu'un qui fasse cette sale besogne. On ne peut pas dire que Hachem a obligé Hitler. Parce que si on dit ça, Hitler devient innocent, ce n'est pas sa faute. Hitler est coupable. Comment il est coupable? Hachem voulait tuer 6 millions de juifs. Il y avait une case, il fallait maintenant un rachat. On a mis Mussolini, ça n'a pas été. On a mis, donnez-moi un autre, Papon, d'accord, ça n'a pas été. On a mis Staline, Staline a fait pire que Hitler, d'accord? Presque pire. D'accord? On a mis Hitler. Hitler, il avait le choix de oui ou non faire ça. Il avait le choix entier.
Sur le moment, il avait le choix, mais pour qu'il se déplace jusqu'au moment où il doit faire ce choix-là, c'est pas lui qui s'est déplacé.
Ah, c'est pas qu'Hachem a pris un gentil monsieur garde allemand qui était bien, tout à fait, il aimait tout le monde, ou Hachem l'a rendu Hitler comme ça. C'est pas comme ça. C'est que, dès petit, il allait d'épreuve en épreuve. D'accord? Et il ratait. Notre libre choix n'est jamais d'être un grand sadique ou un grand rachat. Notre libre choix s'exerce présentement sur un millionième de millimètre. Un peu plus, un peu moins. Tu fais une mauvaise action. On va prendre un exemple. Un exemple que j'ai pris souvent ici. Avant de venir sur Terre, Hachem fixe comme une arborescence tous les choix que nous aurons durant la vie. Ce sont des choix potentiels. Donc j'ai des milliards de voies possibles. Mais ça commence par une voie. Et un beau jour, on arrive à la première intersection entre le bien et le mal. Je prends l'exemple suivant d'habitude. La mère a fait un bon gâteau au chocolat. Et elle dit, tu manges pas, c'est pour Pourim. La mère part. Reste le gosse en face du gâteau au chocolat. Le gâteau au chocolat dit, je suis très bon. Le garçon dit, oui, mais maman a dit que non. Mais tu devrais quand même goûter à voir à quel point je suis bon. Et maman n'est pas là maintenant. Maman a dit non. Oui, mais. Oui, mais, c'est la réponse du Sahara, toujours. Oui, mais, il n'y a rien à dire. Oui, mais. Il goûte. Ça me revient. Qui a mangé du gâteau au chocolat? Erreur fatale, parce qu'il est fils unique. Il a une autre option. Il peut dire, c'est moi maman. Oui, il ment. Il invente une histoire. Ben, le fils de la voisine est venu, on a mangé, on s'est amusé, il a eu du gâteau, il a goûté. Je dis non, okay, c'est lui qui l'a pris. Il se ramasse une tarte. Pourquoi? Il a plein de chocolat sur la bouche. Bon, on passe maintenant, on est la veille de Pessah, un mois plus tard. De nouveau, bon, gâteau au chocolat, ça va. Gâteau de matzah, d'accord? Gâteau de matzah au chocolat. C'est pour ce soir, tu goûtes pas, hein? Tu vas partir maintenant, tu touches pas au chocolat. Oui, maman. De nouveau, il est tout seul avec ce gâteau matin au chocolat, et lui, il y a déjà des antécédents. Donc, goûte au chocolat, c'est clair. Là, il ne peut même pas rester. Ça devient déjà une autorisation pour lui. Maintenant, comment faire? Maman revient. Il amène le gosse du voisin, prend un peu de chocolat, on barbouille sur la bouche du voisin. Sa mère rentre. Et, qui a mangé au gâteau au chocolat? Rotaloche, parce qu'il en a lui aussi dans la feuille, il n'a pas encore appris qu'il devait se nettoyer. D'accord? Mais le Shavuot, de nouveau gâteau au chocolat, il regoute, il reprend le gâteau du voisin, il se nettoie bien, on met plein au-dessus de la bouche du voisin. Il a 4 ans. À 25 ans, c'est un des leaders de la mafia. Donc, par petit choix minuscule, millimétrique, on peut s'enfoncer très très bas ou monter. Tu prends ici un type qui arrive à la yeshiva, qui fait les 400 cours, il fait tchouva, et il commence, il fait un peu plus, un peu plus, et un peu plus. Il peut en 20, 30, 40 ans arriver à des niveaux extraordinaires de kdoucha, de sainteté, de proximité de Dieu. On n'a jamais le choix d'être, je vais être maintenant Baba Salé, un super grand sadique, ou Al Capone, le chef de la mafia. Ça n'existe pas, ça. C'est toujours millimétrique. Donc Hitler, il a commencé millimétriquement à descendre, descendre, descendre. Un beau jour est arrivé à devenir chef de l'Allemagne. Alors il avait le choix maintenant, il fait la nuit de cristal, puis après les premiers camps, et puis qu'est-ce qu'on va faire? On va les tuer comme ça, on va les gazer. La Gestapo, d'abord ils tueraient au bal, puis après au gaz de voiture, puis après le cyclone B. Il y a une progression. Un beau jour, oui. Maintenant, donc ce Hitler était responsable complètement. Hachem l'a mis en fin de compte dans une épreuve ultime qui était celle-là. Cyclone B, Auschwitz, etc. Tu es arrivé à ce point-là de bassesse humaine, oui ou non? Elle a décidé oui. Et pour ça, il écope. Et il écope jusqu'à la fin des temps, d'accord, Hachem. Mais nous, alors qu'on puisse haïr Hitler, on va dire, c'est ta question, c'est permis. Mais est-ce que c'est une réaction objective? Pour nous, c'est clair. C'est un homme vil de la plus basse... pire des espèces.
Mais... détester le choix qu'Akadosh Baruch Hu a fait.
Non. Exactement. On ne peut pas. Maintenant, on doit comprendre qu'Akadosh a voulu ça. Pourquoi Akadosh a voulu ça? Qui, quoi, comment? Ça, c'est déjà une autre affaire. On pourra en parler éventuellement à l'occasion. C'est un sujet très délicat. Mais il est clair... c'est d'akfira, c'est anti-juif de dire qu'une personne peut faire autrement ce que Hachem a voulu. Je dois dire quand même qu'il y a un avis qui dit que oui. Il y a un avis qui dit que oui, qui est le seul, et qui rend tout ce que je dis obsolète, mais qui est incompréhensible. C'est incompréhensible. Il y a un avis dans le...
Le Rambam ?
Non. Le Zohar HaKadosh. Que ramène Or HaKadosh aussi, dans le cas de Yosef. Mais c'est les seuls deux habits qui disent, c'est le Zohar et ramené par Or HaKadosh. C'est le seul qui dit ça. Enfin, des grands connus. Tous les grands Rishonim, tous les grands penseurs disent comme j'ai dit jusqu'à maintenant. Elle mène les preuves que j'ai amenées. Les Gemara des Gemara aussi qui disent ainsi. Que dit le Zohar? Il dit, Rouven vient voir ses frères et dit, pourquoi est-ce qu'on va tuer Yosef? Jetons-le dans le trou. S'il mérite la mort, il mourra. S'il ne mérite pas la mort, il ne mourra pas. Il a dit, c'est un trou plein de serpents. Si, Minashamayim, du ciel, Yosef mérite la mort, il sera piqué par un serpent, il meurt. S'il ne doit pas mourir, ben, Hachem fera en sorte qu'aucun serpent ne le mord. Sous-entendu, mais si nous, on va le juger maintenant, et on le juge, on le condamne à mort, bien qu'il se peut que du ciel, Hachem ne veut pas que Yosef meure, on pourra aller contre la volonté divine, et oui, le tuer. Et ce Zohar, le Rav Dessert essaie de trouver une solution, ah, ça reste très...
Parce que c'est un acte isolé. Tzadik Gozer, le Bokhom Mekayem, même si c'est en dehors de la volonté de Dieu, le Tzadik, c'est pas isolé, on a vu ça dans plein d'autres cas.
Je n'ai pas compris ta question.
On a vu plein d'autres cas où lorsque, même si c'est en dehors de la volonté divine, c'est comme ça doit être, au Tanoro Shel Achnaï, on s'en fout, il n'y a pas une battle qui vient décider.
La halakha, c'est une chose. Ça, c'est de donner aux hommes. Quelqu'un me fait du mal maintenant.
Imagine, c'est de l'alakha. Tout est alakha. Il n'y a pas quelque chose qui n'est pas alakha.
Alakha, on veut juger maintenant quelqu'un, alors on peut se tromper en alakha?
Non, mais je veux dire que tout est alakha. Il n'y a pas une chose dans le monde qui n'est pas alakha. Vous me dites c'est alakha, mais tout est alakha.
Alors tu veux dire quoi?
C'est-à-dire que c'est pas un acte isolé. Est-ce que vous venez de dire que c'est possible de ne pas être dans la. C'est possible de sortir du cadre de la volonté divine?
Tu veux dire que c'est possible, c'est pas possible?
C'est possible. Pas seulement dans le cas de...
Par exemple, donne-moi un autre cas.
Tanoro Shel Achnaï, vous dites c'est l'alakha. C'est Dieu, c'est facile, c'était de l'alakha.
Hachem a voulu, dans sa volonté, que l'alakha soit fixée par les Chmé Israël. C'est pas hors de la volonté divine.
Même en dehors de l'alakha, un tzadik qui est gozer.
Ça vient aussi, Hachem a voulu qu'un tzadik ait une force d'être gozer.
Voilà, on voit qu'il y a plein de cas où...
Mec, du faire du mal à son prochain, qu'Hachem ne veut pas que ce mal se fasse. Quelqu'un y doit vivre. Bien, quelqu'un le tue. D'après la Torah, parce que jusqu'à maintenant, c'est impossible qu'il soit mort si Hachem n'a pas voulu. D'après le Zohar, c'est oui possible.
C'est un
homme, si un homme
hein
le tue.
Si un homme le tue.
Pas si...
Alors comprenez bien ce que j'ai dit. Ça, on va essayer de causer le soir. Ce qui est important, c'est de comprendre. Je l'ai bien précisé au début du cours. Rien ne peut m'arriver. Mais moi, maintenant, je peux manger du porc et dire, tout est fixé, Mektoub, c'est Dieu qui décide tout. Non, tu es responsable de tes actes. Il t'a applaudi, c'est Hachem qui voulait que je suis Simon de Juif. La personne est toujours responsable de ses actes, toujours. Elle peut être envoyée par Hachem dans l'épreuve qu'elle aura, mais c'est elle qui a décidé dans l'épreuve de la réussir ou de la rater. Celui qui subit l'épreuve, qui subit les Simon de Juif, qui subit le comme ça, qui subit l'insulte de Shimon ben Gera, lui subit il subit le décret de Dieu qu'il devra subir. Et l'ange, la personne, l'envoyé qui a fait cela, pour lui, n'est qu'un ange. Baruch Adonai, l'Amen, l'Amen.